de 18h à 19h. Une émission bouddhiste. Zati peut appel au 02 62 35 46 72 de 18h à 19h. Rendez-vous avec Bertrand, nous l'émission bouddhiste.
Bonsoir tous les écouteurs, bonsoir les écouteurs de Radio Piquant. Donc ce soir, nous avons le plaisir, comme vendredi dernier, d'accueillir donc Nathalie et Jean-Jacques. Donc bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir plutôt. Bonsoir. Oui. Donc ce soir, c'est la deuxième édition. Donc l'émission, la série d'émissions que les proposées cette semaine par Radio Piquant en collaboration avec les rôles, on va dire les tendances hein, bouddhistes de la Réunion, c'est de préparer le Wesak. Le Vézac ou le Wesak, c'est
Vézac.
Vézac, d'accord. Donc le Vézac, que sera alors c'est est-ce que ce sera le 4 mai ou le 2 mai?
2 mai.
Un samedi, d'accord.
Oui.
OK, donc samedi 2 mai sur Saint-Gilles que nous allons revenir tout à l'heure sur l'explication de concernant le Vézac et l'organisation. Donc là nous va donc Marie et Jean-Jacques.
Nathalie.
Donc Nathalie pardon et Jean-Jacques si ils pensent que vous vouliez faire une petite présentation et ensuite on y va. Donc, concernant Nathalie.
Donc, Nathalie, je suis donc pratiquante bouddhiste au centre qui est situé à Mont-Vert-les-Hauts. Donc, c'est un centre de la tradition tibétaine. Donc, c'est du bouddhisme tibétain et géré par une association, l'association Tshelang. Et donc, Jean-Jacques et moi, on voulait simplement partager avec vous notre expérience en tant que pratiquant et voilà quelques idées de base de ce qu'on découvre quand on commence à découvrir la voie bouddhiste.
D'accord. Donc Jean-Jacques, oui, c'est par rapport à l'association Tshelang.
Oui, bonsoir. Ben moi aussi, je suis pratiquant bouddhiste depuis 5 ans maintenant à peu près avec le centre Tshelang. Ça fera donc 5 ans qu'on est installé à Mont-Vert-les-Hauts avec donc un maître tibétain, Tulkui Dokhen Tsering Rinpoche. Et donc, c'est une des écoles donc tibétaines. Donc, il y en a 3 sur la Réunion. C'est une des écoles tibétaines, l'école de Nyingmapa. Et donc, voilà, on pratique donc au centre de Mont-Vert toutes les semaines. Et donc, là, ce soir, on va partager avec vous notre humble expérience donc du bouddhiste. En fait, voilà, sur le chemin donc du bouddhisme. En fait.
Alors, pour ce partage, je crois que vous avez, je sais pas s'il faut dire une introduction ou voilà.
Donc, on va commencer par un petit chant. C'est le chant donc de la prise de refuge. Donc on va commencer par le chant, j'expliquerai un petit peu après ce que c'est que ce chant, le sens de ce chant. Voilà.
O sangye che dan tso ke chok lam la jam chom bar do dan ng gap so chi da ge jen so ge pe se nam ke do la pen che sangye dro pa sho Sangye che dan tso ke chok nam la jam chom bar do dan ng gap so chi da ge jen so ge pe se nam ke do la pen che sangye dro pa sho Sangye che dan tso ke chok nam la jam chom bar do dan ng gap so chi da ge jen so ge pe se nam ke do la pen che sangye dro pa sho.
Voilà, merci. C'était donc la prise donc de refuge, le chant de la prise de refuge. Ce chant donc, cette prière, elle est connue de tous les courants donc du bouddhisme tibétain. Donc la prise de refuge, donc c'est un acte essentiel donc pour une personne donc bouddhiste. En fait, c'est l'acte par lequel la personne devient bouddhiste.
Okay. C'est comme un baptême.
C'est comme un baptême. Dans la catholique, il y a le baptême. Chez les bouddhistes, c'est donc la prise donc
de refuge. Okay.
Donc la personne donc prend refuge donc dans les 3 joyaux, à savoir donc le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Le Bouddha, c'est donc le Bouddha historique, donc Shakyamuni et tous les Bouddhas. Le Dharma, c'est l'enseignement. Et la Sangha, c'est la communauté donc de tous les bouddhistes. Okay. On va dire que le Bouddha, il est venu nous amener donc une solution, donc des voies pour nous libérer de la souffrance. Il est considéré un peu comme le médecin. L'enseignement, le Dharma, comme le médicament. Et la communauté, c'est donc tous les gens sur lesquels on s'appuie en cheminant donc sur cette voie-là.
D'accord. Donc, et à Mont-Vert, donc, vous êtes, on va dire, une communauté, c'est ça?
Oui.
Et c'est donc dans les 3 écoles, vous êtes de l'école de...
Nyingmapa.
C'est Nyingmapa,
l'école donc, des anciens. C'est donc l'école lorsque le bouddhisme était introduit donc, au Tibet au 8e siècle, donc après Jésus-Christ. C'est donc l'école donc, la plus ancienne donc, du Tibet. Vient ensuite donc, l'école donc, des Kagyu. Donc le courant tibétain Kagyu présentera lui-même un soir ici donc son école. Ensuite donc l'école donc des Gelupa, donc avec le Man Tsangpo notamment qui est connu à la Réunion, hein, que je dis bonjour aujourd'hui aussi, Sangpo. Et puis donc l'école des Sakyapa qui n'existe pas à La Réunion. Donc il y a 4 écoles donc dans le bouddhisme tibétain. Ce sont donc des formes différentes, mais le corpus, mais donc le cœur donc de la pratique, le cœur donc de l'esprit donc est le même en fait.
Et donc la particularité donc de ce centre, c'est que nous avons la présence permanente de celui qui l'a créé d'ailleurs, qui est un maître authentique du bouddhisme tibétain, donc de cette école Nyingmapa. Et c'est vrai que c'est assez rare, hein, c'est le seul à La Réunion d'avoir cette qualité de maître, donc qu'il a été reconnu en tant que maître par d'autres maîtres. Hein. Un maître ne se reconnaît pas lui-même. Et donc il a reçu la transmission de d'autres maîtres, de tout un corpus d'enseignement. Et aussi, ce qui fait la différence, c'est qu'il a réalisé cet enseignement. C'est-à-dire qu'il transmet vraiment un enseignement par l'esprit. Hein, c'est une transmission d'esprit à esprit. Ce n'est pas seulement des concepts, des mots. Il transmet directement à tous les êtres qui viennent le voir. Et ça, c'est quelque chose de vraiment particulier.
Ok, donc on rappelle les éditeurs qu'on est sur Radio Piquant 89.00 depuis donc Saint-Joseph jusqu'au port. Donc ce soir on est donc avec l'émission avec l'association Chelong pour parler donc du bouddhisme tibétain et ensuite d'un certain nombre de thématiques qu'on va développer après. Donc là on est avec
avant de continuer, mais je voulais remercier Radio Piquant donc d'avoir invité nous sur cette antenne pour qu'on puisse causer un peu aujourd'hui du bouddhisme à La Réunion.
Pas de soucis.
Voilà. Merci Radio Piquant.
Ok, merci beaucoup. C'est des préceptes que nous partageons. Donc, il rentre tout à fait dans notre philosophie au niveau de la radio. Nous l'avons voulu également partager ce VESA qui était l'occasion de présenter un petit peu aux Réunionnais c'est les pratiques bouddhistes à La Réunion, que les connus parce que nous parlons Dalai Lama, les connus pour plein de choses, mais les pas connus dans la pratique. Et dans les bénéfices que les êtres humains peuvent retirer de cette pratique. Donc, nous pensons que ce soir, on va pouvoir donner justement l'ensemble des bénéfices que les retirer de la pratique du bouddhisme. Justement, par rapport au Chelong, donc c'est une association située à Montvert, donc avec Nyingmapa, donc qui leur permanence à La Réunion.
Oui, Rinpoche est le directeur spirituel, on va dire, du centre, mais bien sûr, ce sont des laïcs qui le gèrent. Au niveau administratif, voilà tout ce qui est.
Et comment le centre fait pour vivre?
Alors c'est une association loi 1901, donc si on devient pratiquant régulier, on peut devenir adhérent et c'est ça qui permet à l'association de vivre. Maintenant, si on souhaite juste essayer les pratiques, bien sûr c'est complètement ouvert, gratuit à tous ceux qui veulent venir découvrir le centre. On peut même s'entretenir simplement, demander un entretien à Rinpoche pour le rencontrer. Voilà, il y a plein de possibilités.
Et au niveau du centre, c'est au niveau des cours, est-ce qu'il y a des cours? Est-ce que c'est intéressant pour les auditeurs? Parce que le but, c'est quand même de faire découvrir les pratiques bouddhistes.
Alors, régulièrement.
Est-ce que c'est le lundi? Est-ce que c'est le mardi? Est-ce que c'est le week-end?
Alors, il y a régulièrement des pratiques, mais elles ne sont pas à jour fixe parce que les Tibétains, on suit un calendrier lunaire. Donc, les pratiques se font selon les jours de la lune. Donc c'est pour ça change toutes les semaines. Généralement, il y a 3 séances par semaine, 2 le soir en semaine et 1 le week-end, soit le samedi après-midi, soit le dimanche après-midi. Et généralement, Rinpoche fait un enseignement à chaque fois, plus ou moins long. Et il y a des temps de pratique un peu plus adaptés aux nouveaux, qui s'appellent méditation et échange. Alors, on trouve tous ces détails sur notre site internet.
Oui, ce que j'allais dire, comment est-ce qu'on connaît les pratiques et les séances?
Voilà, alors donc le site internet chelong.org, sur lequel vous avez le détail de tout ce qui se fait, de la biographie de Rinpoche, toutes les activités du centre, le calendrier, comment le contacter, comment fonctionne l'association. Vraiment, il y a tout le détail. Mais voilà, donc il fait ces jours-là de méditation et échange, il fait un enseignement un peu plus long, 3/4 d'heure, 1 heure. Donc c'est bien pour les nouveaux. Et également, on a mis en place une fois par mois des séances d'introduction aux bases du bouddhisme. C'est le samedi matin. Et d'ailleurs, demain matin à 10h au centre, il y aura ce temps d'introduction par Jean-Jacques et moi-même.
D'accord. Voilà. Donc, par rapport aux pratiques du samedi matin, personne intéressée. Donc là, il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse par rapport au centre.
Alors, on n'a pas besoin de s'inscrire.
Hein, d'accord.
C'est ouvert.
On vient sur place.
Voilà, sur place, c'est Montvert-les-Hauts, chemin Antoine Picard, c'est presque tout en haut de Montvert, au 624. Mmh. On reconnaît le centre parce qu'on voit les drapeaux tibétains dans le jardin.
Ouais.
Et on vient, voilà, pour 10 heures et c'est ouvert.
D'accord, ok. Et ensuite, est-ce que vous organisez des retraites?
Non.
Ou des moments forts pour que les gens puissent découvrir le...
Pas de retraite pour l'instant. Mais déjà, les pratiques que l'on fait sont assez intenses, hein, puisque souvent, les soirées, ça dure 2 heures environ. Donc, et comme c'est régulier, ça fait vraiment voilà, beaucoup de pratiques. Et ensuite, ceux qui sont vraiment engagés sur le chemin, en fait, ont leur pratique personnelle.
Okay.
C'est-à-dire que quotidiennement, ceux qui sont pratiquants voilà, pratiquent chez eux quotidiennement.
D'accord.
Et le suivi est fait par le maître.
D'accord, mais okay, ils pratiquent chez eux, mais ils viennent régulièrement
oui,
au
voilà,
centre.
On pratique tous ensemble environ 3 fois par semaine.
Ouais.
Il arrive aussi qu'on fasse une journée entière de pratique. Ça arrive
d'accord.
Une fois par mois environ, on fait toute la journée, tous ensemble.
Une fois par mois, tout
voilà.
Le
mois. Okay. Pareil, il faut regarder le calendrier. On fait aussi une porte ouverte une fois par an pour accueillir un peu tous les gens qui veulent découvrir. Et voilà, ces pratiques communes, c'est vrai, sont très importantes parce que ça donne plus de force, en fait, de pratiquer ensemble.
Ça développe une énergie commune.
Voilà, une énergie commune. C'est très important.
Ouais, ok. Peut-être Jean-Jacques a des choses par rapport à Chelang, le fonctionnement des... Et comment est accueilli le bouddhisme à travers ce centre par rapport les jeunes, les jeunes ou les moins jeunes qui viennent? Parce qu'on sait que la Réunion est un pays, est une île très, très spirituelle. Donc comment s'est accueilli ces pratiques et le bouddhisme en...
Il y a des gens de tous les horizons qui viennent, hein, des jeunes, des moins jeunes, etc. Donc en général, soit ils viennent dans des cours pour d'abord voir un petit peu c'est quoi le bouddhisme. Ils peuvent venir voir Rinpoche tout simplement, le saluer, parler avec lui. Donc voilà, juste visiter le centre. Certains viennent juste visiter le centre. Donc voilà, petit à petit, des personnes viennent. Bon, souvent, pourquoi on va aller sur la voie du bouddhisme? Donc, on va voir si on développe un petit peu. La base donc, du bouddhisme, c'est donc de libérer les personnes de la souffrance.
Okay.
Donc, donc, c'est le mot de départ. Le Bouddha fait un constat. Le constat de départ, c'est la souffrance des êtres sur cette terre et dans le cycle. Et donc, à ce moment-là, donc, on va travailler comment donc, se pacifier, comment travailler sur ses émotions, comment être un peu plus en paix, comment se libérer un peu de son esprit, rendre son esprit un peu plus libre, on va dire.
D'accord.
Donc, de moins saisir les choses, d'être moins attaché ou saisi par rapport aux choses que l'on veut. Donc, voilà.
Être moins réactif.
Être moins réactif, être plus dans... Alors, donc, être un petit peu plus détaché. Alors, souvent, les gens, ils confondent détachement et indifférence.
D'accord,
c'est pas la même chose.
Avant de venir sur ce point, est-ce qu'on peut dire que le bouddhisme, c'est la recherche, justement, de la diminution ou la recherche, tout faire pour moins souffrir?
Oui, tout à fait.
On va revenir
sur les 4 nobles vérités. Tout à l'heure, Nathalie parlera des 4 nobles vérités. Mais la base, le constat, c'est ça. Donc, on constate la souffrance. On va trouver les moyens. Trouver les moyens, donc, de se libérer de cette souffrance.
Et quand vous parlez de souffrance au niveau bouddhiste, qu'est-ce qu'on entend par souffrance? C'est la souffrance physique, c'est la souffrance...
Effectivement, c'est toutes sortes de souffrances. Alors, il y a déjà les souffrances de base qui sont dues à la naissance. Hein. Déjà, la naissance est une souffrance, bien qu'on l'accueille comme un événement heureux, mais
c'est
concrètement,
une
c'est une souffrance l'accouchement pour le bébé, etc. Ensuite, les souffrances qu'on rencontre dans la vie, ça va être la maladie. Hein. On est hélas peu épargné par les problèmes, par la maladie. Ensuite, la souffrance inhérente à ce monde, c'est la vieillesse. Voilà, on est tous amenés à vieillir. Et la dernière, c'est la mort.
D'accord. Hein?
Donc ça, ce sont les grandes souffrances auxquelles personne n'échappe. Et ensuite, dans notre vie, on va rencontrer des souffrances parce que on n'arrive pas, par exemple, à obtenir ce que l'on veut. Ou bien, quand on l'obtient, on n'arrive pas à le garder. Hein? Ou bien, voilà, on perd ce... soit qu'on est attaché.
Hein, donc là, il y a la notion d'attachement qui revient.
Voilà.
Donc l'attachement, ça génère une souffrance.
Voilà. Parce qu'il y a aussi cette idée qu'on souhaiterait que les choses durent. Hein, donc on refuse cette notion d'impermanence. Des choses. Et qui est une grande notion qu'on étudie aussi, sur laquelle on réfléchit, parce qu'elle est vraiment une cause de grande souffrance pour nous. Par exemple sur la vieillesse tout simplement, on aimerait bien que ce corps reste jeune, que l'on soit toujours beau, que l'on soit toujours en forme, et on lutte, hein, on lutte énormément, on fait du sport, on se soigne, ça veut pas dire qu'il faut pas se soigner, mais je veux dire...
Il faut pas s'attacher au...
Voilà, il faut pas aller dans l'excès, et on est souvent dans l'excès parce qu'on est dans la lutte pour garder quelque chose qu'on veut.
On sait que ça va, tôt ou tard, ça va disparaître.
Et non, on le sait, justement, on le sait, mais on préfère ne pas le savoir, okay. Ou on cherche à pas le savoir, ou on se le cache.
On met de côté pour, parce que ça arrive pas encore.
Voilà, et puis on a toujours espoir que finalement la science va trouver une solution miracle, okay. Voilà. D'éternalisme, cette idée d'éternalisme, de jeunesse à tout prix. D'ailleurs, on le voit dans la pub,
oui, dans
c'est
pubs,
hyper exploité.
Les,
oui. Voilà.
Et donc, de deux éléments forts de la souffrance, c'est donc la permanence, donc le fait de dire que les choses sont, on croit que les choses sont permanentes, donc du coup, on n'accepte pas, donc on souffre. Et l'autre côté, c'est l'attachement, on s'attache à des objets, des personnes, des.
Oui. À la base, on recherche tous le bonheur, hein. On recherche tous à être bien, on recherche tous le bien-être. Mais on se trompe sur les causes, en fait. Hein? C'est-à-dire qu'on va le chercher dans les objets, dans l'acquisition de choses, ou dans l'activité, ou bien dans le fait d'avoir une belle voiture, une belle maison, dans le fait d'avoir le conjoint dont on rêve, le prince charmant. Et c'est toujours à l'extérieur de nous. Hein? Okay. On le cherche dans les choses, dans les êtres.
D'accord.
Et aussi dans le faire, dans l'activité. Il y en a, ils vont s'investir énormément dans leur activité, passer toute leur journée très, très à courir partout, en fait. Et finalement, sans pourtant arriver à un bonheur durable. Okay. Parce que des petits plaisirs, des petits bonheurs, on en trouve dans la vie.
C'est
comme
permanent.
Ça. Voilà. Mais quelque chose de profond, de durable, non.
D'accord.
Donc, le Bouddha, en fait, nous invite à nous tourner vers l'intérieur.
Hein? D'accord.
Au lieu d'investir l'extérieur, il dit, en fait, la solution, elle est en vous. Okay. Elle est dans l'esprit.
Donc la personne doit faire un travail sur elle-même.
Voilà.
Pour pouvoir se libérer et ensuite...
Se libérer, c'est vraiment le but ultime. Oui. Mais avant de se libérer, je dirais complètement, il y a tout un travail progressif, en fait. Hein,
oui. Mmh.
Parce qu'on est justement dans un fonctionnement erroné, un fonctionnement perturbé de notre esprit. Et donc, il y a tout un cheminement. On a une vision erronée de qu'est-ce qui sont les causes du bonheur, de tout ça. Donc, il faut déjà se poser et regarder les choses.
C'est comme si on avait un voile devant nos yeux et qu'on n'arrivait pas à voir le...
Voilà, on a des voiles, c'est ça.
Et le bouddhiste, qu'est-ce qu'il va faire? Le bouddhiste va nous aider à quoi? À enlever ce voile, à percer ce voile.
Ouais, mais c'est à nous de le faire. Hein.
Okay. Le Bouddha nous donne son exemple.
Voilà.
Et l'enseignement, justement.
L'enseignement. Le Bouddha ne fait pas le travail pour vous. Mmh. Il va vous montrer le chemin. Mmh. Et à vous de faire le chemin.
Ok.
Donc, effectivement, la première chose, c'est prendre du recul. Hein? Prendre du recul et regarder comment on fonctionne. Donc, on va s'apercevoir dans les situations qu'on a des réactions émotionnelles. Hein? C'est souvent les émotions. Mais pourquoi? Pourquoi on a eu telle émotion? Ah ben, j'ai telle émotion parce que... j'avais un attachement à ça. Et on remonte comme ça. Et pourquoi j'ai un attachement? Ben parce que j'ai pas compris que d'avoir un attachement, c'était inutile parce que c'est pas possible. Les choses sont impermanentes.
Mais comment est-ce qu'on peut remonter ça? On se pose des questions ou on se met dans des pratiques?
Souvent, donc, on dit que par rapport aux différentes méthodes, donc, au niveau du bouddhisme, on dit qu'il y a on appelle ça la méditation analytique, ça veut dire on va donc analyser un petit peu notre comportement intérieur et donc ce que l'on fait à l'extérieur. Donc on va se regarder ses comportements, donc son esprit, son fonctionnement, pourquoi je fais ça, pourquoi je suis heureux à ce moment-là, pourquoi je ne suis pas à ce moment-là. Les comportements diffèrent d'une personne à une autre.
Okay,
je prends un exemple, un enfant tombe, et une maman qui va arriver, qui va dire, fin diao 10 000 fois, arrête de courir. Deux tapes dans la tête, donc il va frapper l'enfant. L'autre personne va arriver, il va prendre l'enfant dans ses bras, il va le caresser, attention, etc. Donc un même acte extérieur, donc deux comportements différents.
Okay.
Donc nous-mêmes aussi, notre esprit, il est comme ça. Il est souvent agité, il n'arrive pas à être stabilisé. Donc on va apprendre à notre esprit petit à petit. On dit que l'esprit est comme un cheval fou, en fait. Et donc on va essayer, donc ce cheval fou, d'essayer de le maîtriser, de le transformer, donc d'avancer, d'essayer de le pacifier, de le rendre l'esprit libre. Libre de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc il y a peut-être une autre vision, une vision plus globale, on va dire plus unifiée, de voir les choses, donc de voir la vie, donc l'esprit. Donc ça c'est la première chose, donc analyser ce que l'on fait. Et il y a aussi donc la pratique qui est plus contemplative, on va dire, que l'esprit soit plus calme, moins agité. On dit que quand l'eau, pour que l'eau devienne claire, il faut pas agiter l'eau. Donc il faut, pour que l'eau devienne claire, il faut donc la laisser donc se reposer. Donc on laisse l'esprit se reposer, être en paix, tranquille, paisible. À ce moment-là, on commence à mieux voir les choses. On commence aussi à mieux se voir soi-même et donc à mieux voir les autres. Évidemment, quand on se voit mieux soi-même, on voit mieux les autres.
Tout à fait.
Et avec une plus grande douceur et une plus grande bienveillance en réalité.
Ok. Donc, juste pour rappeler les auditeurs qu'on est sur Radio Piquant, donc l'émission avec nos amis Nathalie et Jean-Jacques, des amis bouddhistes de La Réunion. C'est une émission faite dans le cadre de la préparation du Vesak qui aura lieu donc à Saint-Gilles à la date donc du 2 mai. Oui. Voilà, donc oui. Nathalie qui voulait rajouter quelque chose.
Oui, c'est juste qu'on parlait tout à l'heure donc des émotions. Les émotions elles-mêmes ne seraient pas un problème si elles n'entraînaient pas en fait des actes plutôt des actes négatifs en fait. Hein. Okay. Parce que voilà, le fait de donc d'avoir cette par exemple, je donne un exemple concret hein, sur la jalousie par exemple. Le fait de que la jalousie s'élève va créer chez nous bien sûr un acte plutôt malveillant. Hein, mmh. Avec une personne. Donc, cet acte malveillant, il va avoir un effet. Enfin, ça c'est donc une loi importante qu'a énoncé le Bouddha, c'est le karma. Cette notion de karma.
Sur lequel on reviendra dans un instant. Oui.
Voilà. Okay. Qui est que toute action a un effet qui lui correspond en fait. Hein?
Mais le fait que la personne exprime la jalousie, est-ce que c'est pas aussi une chance pour pouvoir résoudre un problème qu'elle a pu exprimer?
C'est une chance de l'avoir.
C'est une chance, non pas de reconnaître que j'ai un problème sur lequel je dois travailler.
Oui, bien sûr, si on reconnaît.
Enfin, attention aux conséquences.
Oui. Si on reconnaît la jalousie, bien sûr, hein, c'est un matériau. Mmh. Mais là, on parle du problème que la jalousie n'est pas reconnue. Mmh. Hein. Mais alors, on croit qu'on voit nos émotions, mais en fait, c'est beaucoup plus subtil. Je donne un exemple. Par exemple, quelqu'un que vous connaissez vient d'acquérir une belle voiture, une nouvelle voiture et une très belle voiture. Eh bien, pourtant, c'est quelqu'un que vous aimez bien. Hein,
ouais.
Mais dans votre cœur, quand il vous dit ça, « Ah voilà, je viens de m'acheter la dernière super voiture », il y a comme un petit pincement.
Ouais. Bah ouais,
qu'est-ce que c'est ce petit pincement? Eh bien, on ne se réjouit pas complètement qu'il ait cette chance d'avoir une super voiture. Mm-hmm. Il y a ce petit pincement-là, et bien ça, voilà.
Donc hein, c'est un élément qui montre qu'on n'est pas en paix. On n'est pas en paix avec nous-mêmes.
Et oui, et puis surtout, on réagit par rapport à nous-mêmes. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, on se met pas à la place de l'autre qui a cette chance énorme d'avoir une super voiture, qu'il est heureux et tout ça. Voilà, on pense à nous. Hein. Quand il nous parle de sa voiture, on pense à nous et on se dit ah ouais, lui il a ça, mais moi j'ai pas.
Mmh. Et on le voit dit pas directement. C'est
non, on le dit pas. Mais tout ce processus, il se passe dans notre esprit. Okay. Hein. Mmh. Et donc, notre esprit, à ce moment-là, il dit moi j'ai pas de voiture. Ah oh là là, gna gna. Et voilà. Au lieu d'être centré sur le bonheur de l'autre et de se réjouir,
On se pose des questions.
On voit ce que nous il nous manque. Mmh. Et du coup, c'est une souffrance. Et en plus, ça va entraîner que la jalousie qu'on a envers lui. Du coup, on va pas se réjouir vraiment. Il va le sentir. Il va pas y avoir la joie. Il va le sentir. Ça va un peu comme un poison. On dit les émotions, c'est comme un poison.
D'accord. Donc, en fin de compte, le bouddhisme va nous aider à nous libérer de ce poison.
Nous libérer de ce poison. Et Rinpoche dit souvent, pas d'être, pas de Bouddha. Ça veut dire que le bouddhisme ou bien les voies spirituelles existent que pour aider les êtres. Notre motivation essentielle de base, dans laquelle, à chaque fois qu'on commence une pratique, on va se mettre dans cette condition-là. On va commencer à pratiquer cette motivation-là. On pratique, on est motivé pour l'ensemble des êtres. Donc, se réjouir donc du bonheur de l'autre, c'est la première chose à essayer donc de mettre en place en soi. Donc, c'est un gros travail.
Oui,
c'est un gros travail.
Oui,
donc, c'est la base de notre pratique. C'est donc la motivation, c'est donc la bienveillance et le bonheur des êtres. D'ailleurs, si le bouddhiste va travailler à son éveil, c'est-à-dire pour se libérer lui-même, c'est avant tout pour essayer d'aider les autres à se libérer.
Ok.
Donc, tout est lié. Voilà.
Mais souvent, c'est pas très bien compris. On dit que les bouddhistes sont parfois égoïstes. Est-ce que vous pouvez, par rapport à cette idée-là, apporter des précisions?
C'est plutôt parce qu'on a l'image du bouddhiste qui va se réfugier dans une grotte, pratiquer tout seul, à l'abri des autres. Et on se dit, ah ben là, quel égoïste. Il pense qu'à lui, il pense pas au monde. Et ça, c'est vraiment une fausse idée. C'est-à-dire que les personnes comme ça, qui font des retraites pendant plusieurs années, par exemple, c'est comme un docteur. Hein. Quelqu'un qui fait des études pour devenir un docteur, il faut bien qu'il fasse ce temps, ses études, hein. Et que après, il faut ce temps. Bon, déjà c'est
après,
ça. Et après ils reviennent dans le monde généralement ces personnes qui font ces retraites. Et dans leur retraite, leur seule motivation, c'est uniquement de progresser donc de découvrir leur nature et d'atteindre l'éveil dans le but d'aider les êtres. Donc le but de départ, si le but de départ c'est d'aider les êtres, on peut pas dire qu'une personne qui va en retraite s'isoler, c'est égoïste, c'est pas possible.
Okay. Hein? Donc pour aider, quand vous dites aider les autres, c'est une autre notion, c'est la compassion ou qu'est-ce qu'on entend par
ouais. C'est bien ça. C'est bien la notion donc de compassion, d'amour,
parce
de partage.
Qu'il faut préciser un petit peu cette notion de compassion qu'on entend
oui,
souvent.
On dit souvent que le bonheur, par exemple, c'est donner donc de l'amour à l'autre. Le bonheur. L'amour, c'est donc donner donc du bonheur à l'autre, pardon. La compassion, par contre, c'est prendre sur soi la souffrance des êtres.
D'accord.
Donc voilà. Donc on est entre donc amour et compassion. Donc donner donc à l'autre donc de l'amour, du bonheur, et prendre la souffrance de l'autre en tant que compassion.
Et du coup, on est très loin de la personne égoïste.
Je sais pas, donc égoïste comme Nathalie.
Compassion, c'est prendre donner de l'amour, donc on est très loin de ça.
On est à l'inverse complètement. Oui, c'est l'altruisme. Mathieu Ricard a fait un livre l'altruisme par rapport aux animaux par exemple dans le bouddhisme. Donc on considère que tous les êtres souffrent de la même manière. Tous les êtres, y compris les animaux. Parce que les animaux sont des êtres sensibles, comme nous, c'est-à-dire que s'ils ont faim, ils souffrent de la faim, s'ils sont blessés, ils souffrent sur leur, au niveau de leur corps. Et donc, les bouddhistes ont donc une attention particulière à tous les êtres, y compris les animaux. Et on a tendance, nous, dans la vie ordinaire, à l'oublier. C'est-à-dire qu'on est capable, par exemple, de faire une grande fête, un grand repas, en mangeant des tas d'animaux, sans avoir une seconde pensée pour les animaux. Au contraire, on est en train de faire la fête, donc on oublie, c'est de l'ignorance. On oublie qu'on est en train de manger des êtres.
Ok. Et parlant d'ignorance, c'est aussi une notion chez les bouddhistes. Donc
c'est le problème de base.
C'est le problème de base de l'ignorance de l'humain qui fait qu'on est dans cette situation.
C'est une ignorance qui est là. Pas de, je connais pas les choses comme au niveau de intellectuel. C'est au contraire, c'est de l'ignorance, c'est de la non connaissance du fonctionnement de l'esprit.
C'est la fausse croyance aussi.
Oui.
Ouais.
C'est ne pas reconnaître les choses à qu'elles sont. Okay. Il y a un déni de la réalité quand on refuse l'impermanence, quand on refuse de voilà, c'est un déni de la réalité.
L'attachement.
On est dans l'illusion, dans une perception fausse du monde, des autres, et voilà. Et ça, c'est ça l'ignorance.
D'accord. L'ignorance, c'est ça, ou c'est peut-être aussi on a l'illusion de croire que tout ce qui nous entoure, c'est ce qui est réellement, alors que c'est pas la nature véritable des choses. Est-ce que c'est peut-être ça?
Oui. Enfin, tout ce qui nous entoure est une projection de l'esprit.
Oui.
Et ça, on l'oublie. On pense que le monde extérieur et nous sommes séparés.
Est-ce qu'on place l'ignorance dans cette...
Oui. Oui, d'accord. L'ignorance, c'est aussi penser que le monde extérieur et nous sommes séparés.
Et quand vous dites séparés, qu'est-ce que vous entendez par séparés, nous et le monde extérieur? C'est-à-dire, on fait pas, on pense pouvoir le maîtriser. Qu'est-ce qu'on entend par séparés?
On a une impression qu'il y a deux choses. Entre les deux.
D'accord.
Alors qu'il
y a deux entités, alors qu'il y a qu'une
seule.
C'est
en dehors de la dualité. Le Bouddha nous dit, la dualité, c'est un fonctionnement au niveau relatif. Le monde fonctionne d'une manière relative avec la dualité, mais au niveau ultime, dans l'esprit, au niveau ultime, il n'y a pas cette dualité.
Il n'y a pas cette séparation entre...
Il n'y a pas de séparation entre les choses, entre les gens.
Okay. Si on prend donc la métaphore donc de la lune et du reflet de la lune, on dit que la lune donc elle éclaire le soir et donc il y a une flaque d'eau et on voit donc la lune donc dans la flaque d'eau en fait. Donc le reflet de la lune, donc on voit réellement.
Et on pense que c'est la lune dans la flaque d'eau.
Alors en fait, il y a une réalité de qui est illusoire, qu'on vit tous les jours, qu'on voit et qu'on croit comme dur, comme fer, que c'est solide, que c'est costaud, que c'est la réalité. Il y a une autre réalité qui est plus ultime. Mais les deux sont liés. Quand on regarde le reflet de la lune, on le voit vraiment dans la flaque d'eau. Mais la lune n'est pas dans la flaque d'eau, évidemment. Elle est beaucoup plus loin.
D'accord.
Donc, à chaque fois, c'est comme ça. Donc, il y a cette vision à avoir d'un ensemble de choses qui fait partie donc de quelque chose de plus grand en réalité, d'une vue plus vaste. C'est pour ça que la vue est importante. Et comme le disait le Bouddha, donc, l'a bien dit, que l'ignorance, donc, c'est la base même de notre souffrance.
Okay.
C'est parce que, donc, on ne voit pas, on ne se voit pas, notamment, on ne reconnaît pas en réalité la nature de notre esprit. On ne sait pas qui nous sommes en réalité.
Donc, en fin de compte, on vit dans l'illusion que la Lune est représentée dans la flaque d'eau, mais on ne voit pas la réalité de la Lune sur notre tête.
Les deux existent en fait. Il y a une réalité qui est illusoire et ultime, mais je veux dire, ici, on vit, on est ensemble, mm-hmm. on parle dans la radio, c'est une réalité. Ouais. Elle n'est peut-être pas ultime, elle est peut-être illusoire, mais c'est une réalité qui est là. Il faut en tenir compte, bien sûr. Par contre, on ne va pas donc, on va aussi dépasser cette réalité-là pour avoir une réalité beaucoup, beaucoup plus grande.
D'accord.
Mais ça, c'est avec un travail, un cheminement. Ok. Petit à petit.
Voilà, donc on a fait un beau topo sur la souffrance, puisqu'on a parlé donc de l'attachement, on a parlé de l'impermanence, et on a parlé aussi de la notion de connaissance, d'ignorance. Donc on va faire une pause musicale, et on va revenir ensuite sur les deuxièmes notions que vous voulez développer, parce que là on est resté quand même pas mal de temps sur cette notion de souffrance, parce que je pense que si les gens se tournent vers les religions, quelles qu'elles soient, c'est justement pour chercher un chemin pour diminuer cette souffrance.
Tout à fait.
Donc on va revenir sur ce point, un autre point, le deuxième point que vous voulez développer juste après cet intermède musical. Jean-Jacques, donc Radio Piquant 89.00. On est avec Nathalie et Jean-Jacques pour nous parler du bouddhisme. Et sur le bouddhisme, il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va donner ce qui nous semble intéressant pour que les auditeurs puissent comprendre, puisque le bouddhisme n'est pas très connu à La Réunion. C'est récent, ça ressemble parfois à un phénomène de mode, mais c'est récent, mais ça demande à être expliqué pour les personnes que nous sommes. Donc tout à l'heure, on parlait de souffrance. Avant de pouvoir aborder les autres thèmes, Nathalie, par rapport à la musique, par rapport à la musique qui vient d'être diffusée sur la radio.
Oui, alors ce qu'on vient d'entendre dans l'introduction, donc il y avait des instruments qu'on utilise dans les rituels traditionnels, des cymbales. Quelques secondes. Ensuite, on a entendu une prière à Guru Rinpoche, donc. Guru Rinpoche, ça veut dire le précieux maître. c'est Padmasambhava en sanskrit. Et c'est celui qui a amené le bouddhisme au Tibet. Donc il y a eu historiquement, il y a eu le Bouddha Shakyamuni il y a 2500 ans, qui donc a atteint l'éveil et donné un enseignement. Et ensuite le bouddhisme s'est propagé dans différentes régions du monde, essentiellement en Asie. Et au 5e siècle, 7e siècle, et c'est donc il s'est propagé au Tibet par cet être qui était un être éveillé également, hein, qu'on appelle le second Bouddha, Guru Rinpoche. Donc c'est une référence, une inspiration pour les bouddhistes, surtout de notre école, c'est l'école Nyingmapa. Et donc on reçoit sa prière et ensuite on a entendu le mantra Amarum Benza Guru Pema Sidihum, qui est donc l'essence, le mantra c'est les mots, le mot sacré, l'essence des mots, hein, oui. Qui est là, c'est en lien avec donc Guru Rinpoche, que l'on récite, enfin ça fait partie des phases que l'on récite, on peut réciter le mantra pendant de longues minutes, ouais. En répétant, et voilà, c'est une union en fait à cet aspect de l'éveil.
D'accord. Et ça fait partie, donc les réciter des mantras, ça fait partie des pratiques, voilà, que vous faites au centre.
C'est ça, c'était pour vous donner aussi une idée de ce qui est pratiqué, c'est un petit extrait.
D'accord. OK. Et on disait tout à l'heure que on n'est pas condamné à la souffrance. Alors est-ce que tu pourrais vous tous les deux pour éclairer, on n'est pas condamné à la souffrance, éclairer un petit peu le chemin qui va nous conduire justement à faire en sorte qu'on puisse arriver à autre chose que cette souffrance.
On a beaucoup parlé de souffrance, en fait, donc, parce que c'est un constat de départ, mais en face de la souffrance, évidemment, il y a la libération. Mm-hmm. D'accord. Okay. Donc, c'est retrouver, en fait, qui nous sommes réellement, la nature de notre esprit. Donc, le Bouddha, il nous conduit, il nous donne donc des enseignements sur la nature de notre esprit. Nous sommes des êtres libres, avec un potentiel, donc, que nous soupçonnons même pas. Et donc cette nature d'esprit donc qui nous met donc devant nous en fait, qui nous met sur le chemin pour découvrir notre propre esprit.
D'accord. Et par rapport à tout ce qui se passe actuellement, donc il y a quand même de l'espoir puisque la nature véritable de l'être, hein, de l'humain, c'est quoi?
Bah c'est cette nature de Bouddha qui est donc a les qualités de clarté qu'on appelle aussi la sagesse. Et de compassion.
D'accord. Donc, quand on dit qualité de Bouddha, ça veut dire le Bouddha même, le nom même, ça veut dire quelqu'un qui...
Sangye en tibétain. Sang, ouais. Ça veut dire purifier.
Oui.
Donc, on purifie tous les voiles. Et Gye, on actualise les qualités.
D'accord. Donc, ça veut dire en tous êtres humains, il y a un Bouddha.
En tout être humain, il y a un Bouddha. D'ailleurs, le Dalai Lama, quand il salue les gens, il joint les mains devant lui. Et quand il dit bonjour, hein, même à une foule inconnue, et il baisse la tête, il s'incline. Et pourtant, c'est le Dalai Lama.
C'est un être spirituel
qui est sur la plus haute marche. Ouais. Et en plus, c'était le chef d'un gouvernement. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il reconnaît en chacun de nous, qu'il voit là en face de nous, il voit le Bouddha. Il voit un Bouddha.
D'accord. Et donc ça, ce serait l'espoir de pour les nous, hein, qui vivons dans cette société difficile. Par rapport à ça, justement, est-ce que les pratiques sont suffisantes? Est-ce qu'il faut une hygiène de vie? Est-ce qu'il faut venir au centre? Est-ce qu'il faut... Voilà, c'est intéressant aussi pour les auditeurs de comprendre justement que si en chacun d'entre nous on a un Bouddha, ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour le réveiller?
Donc, on l'a dit tout à l'heure, donc, c'est comme si, donc, on avait, donc, des voiles, en fait, qui nous empêchent de nous voir nous-mêmes. On dit souvent, je prends un petit exemple, comme ça. Si, par exemple, chacun de nous ici, donc, dans ce studio, on n'avait jamais eu, donc, en face de soi un miroir. On ne saurait pas quelle tête on aurait, ni quel corps on aurait, quelle apparence physique on aurait. Donc, voilà. Évidemment, on a des miroirs, on sait à quoi on ressemble. On va dire, l'esprit, c'est un peu ça. L'esprit, pour le moment, on n'a pas de miroir pour voir notre propre esprit. Est-ce que l'esprit, il a une couleur, il a une forme, il a un endroit? Où est l'esprit? Qui est l'esprit? En fait, le miroir de l'esprit, ça va être donc le Dharma, l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha a amené son enseignement comme un miroir pour qu'on puisse se voir, pour qu'on puisse voir notre esprit. Et le maître, donc Rinpoche en l'occurrence ici, le maître nous présente donc ce miroir pour qu'on puisse nous voir nous-mêmes. Et petit à petit cheminer, pour petit à petit aller vers nous-mêmes et nous retrouver nous. Mais nous retrouver dans ce qu'il y a donc de plus beau, de plus puissant, de plus doux, de plus, voilà, donc aller vraiment donc dans vers cette lumière en fait de nous-mêmes. Voilà.
Mais le chemin est long.
Le chemin est long. Il peut prendre donc plusieurs vies. Il peut prendre, voilà, le chemin, il n'a pas de, on dit souvent, pas de, pas de commencement, pas de fin en réalité. Donc vous parlez de chemin, on vit l'instant présent, mais on dit pas de commencement et pas de fin. Le chemin, donc, il est sans fin en réalité.
Oui, on parle de chemin parce que on a depuis, alors le bouddhisme, hein, considère évidemment aussi que nous avons plusieurs vies. Enfin, nous avons des renaissances. Le Bouddha dit depuis des vies, on a accumulé des tendances qui nous entraînent à souffrir, mais c'est comme un automatisme. On pense être gérer notre vie à notre façon et être libre, mais en fait c'est l'inverse. Si on regarde, on est juste guidé par nos émotions, nos tendances, et on est complètement pris par ça en fait. On n'est pas du tout libre actuellement. Donc pour s'en libérer, c'est comme un morceau de fer que vous avez tordu dans un sens. Il faut le tordre dans l'autre sens. Il faut y travailler, jusqu'à changer en fait. Hein. C'est transformer, c'est ça l'esprit, c'est changer ces tendances qui se sont enracinées en nous, presque imprimées en nous. Mais sachant que le fond n'est pas comme ça. Enfin. Le fond est clair et compassionné et sagesse. C'est juste que on a eu un fonctionnement erroné et on s'est identifié à ce fonctionnement.
On dit souvent que l'esprit ressemble au ciel en fait. Le ciel qui est vaste, qui est lumineux, qui est donc sans limite, qui n'a pas de centre. Notre esprit serait donc l'esprit. Et les pensées, les émotions, ce sont les nuages qui passent et qui passent et qui passent. Et donc toute la pratique, ça va être petit à petit de laisser passer ces nuages, parce que ces nuages sont quand même la manifestation du ciel. Les pensées, les émotions sont la manifestation de notre esprit. Okay. Donc on les laisse, donc on les observe, on les reconnaît, on les laisse donc partir, et petit à petit on revient au ciel. À chaque fois, on essaie de retrouver notre propre nature. Mmh. En laissant donc passer. Souvent aussi, on considère que l'esprit est comme un miroir, et ce miroir, avec les renaissances, avec différentes vies, était recouvert donc de rouille ou une couche donc de poussière. On va passer notre temps dans le travail de purification, des pratiques, voilà, à nettoyer ce miroir pour qu'on puisse enfin se voir, donc voir notre propre esprit.
Voir ce qu'on est réellement.
Ce qu'on est réellement.
Alors, on rappelle aux auditeurs qu'on est avec donc Nathalie et Jean-Jacques de l'association Chelang. Donc, nos amis bouddhistes qui sont situés sur le centre connu à Montverléo. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont nées sous de bonnes étoiles? Ce qui fait qu'elles ont un karma. Donc, on va revenir à cette notion de karma, qui fait que peut-être que c'est beaucoup plus facile pour elles, parce que, pour X raison que vous avez peut-être nous expliquer.
Alors, le mot karma, c'est un mot, donc souvent on dit, ça c'est votre karma, ça, allez comme ça, c'est votre karma. Le karma, c'est pas le destin. Le karma, c'est pas, voilà, les comme ça, il bouge plus. Le mot karma, en sanskrit, veut dire action. Donc, chaque action. Mais l'action, on va parler donc de la pensée. Donc, on dit qu'il y a souvent, le Bouddha a dit qu'il y a trois entrées, trois portes. La porte donc de l'esprit, donc la porte donc de la parole et celle du corps. On va commencer par penser. L'acte de penser, c'est un vrai acte. On pense, on réfléchit, ensuite on parle et ensuite on agit. Donc, on va travailler sur ces trois portes pour se purifier, pour avancer. À chaque fois, la notion donc de karma, à chaque acte positif, va correspondre donc du bonheur. À chaque acte, on va dire négatif ou non vertueux, de la souffrance. Donc, on va essayer donc de voir si on peut maîtriser ces différentes portes au travers de notre pratique, de notre vie de tous les jours, pour avoir un meilleur karma. Il est évident qu'une personne qui a travaillé durant toutes ses vies auparavant à être vertueux, lorsqu'il va naître, il aura un karma, il aura donc une renaissance, on va dire, beaucoup plus bénéfique ou bienveillante qu'une personne qui, dans d'autres vies, évidemment, a commis des actes non vertueux. C'est évident. Mais après, il faut savoir que la personne qui revient sur Terre avec un karma, entre guillemets, donc positif, cette personne-là va se mettre évidemment au service des autres. Parce que son but sur Terre, ça va être d'aider les autres. Que tous les êtres arrivent le plus tôt possible à découvrir sa propre nature et sa vraie nature. Donc, le karma, c'est exactement comme si vous avez donc une terre et vous plantez une graine. Cette graine, si elle est donc, elle va donc mûrir, elle va maturer. Et à un moment donné, elle arrivera à maturité. Et donc, à ce moment-là, vous serez donc en relation directe, vous serez devant vous, donc vous aurez donc la manifestation de votre karma. Ce que vous avez fait sera devant vous.
Voilà, ce qui nous arrive aujourd'hui, on en a créé les causes. Donc si on est dans une situation favorable, autant s'en servir pour la suite. C'est-à-dire, la suite, c'est maintenant qu'on l'a créée, c'est maintenant qu'on plante les graines pour le futur. Donc si on a une situation favorable, on peut juste en jouir. Il y a des gens, ils ont une bonne situation, beaucoup d'argent, etc. Et ils vont passer leur vie dans les loisirs, à se distraire. Et ils auront une bonne vie, certes, mais... finalement, ce karma positif dans lequel ils sont, il va s'épuiser en fait. Hein. Donc une fois qu'il sera épuisé, ben, c'est tout le karma négatif qui peut ressurgir. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on a fait comme acte dans le passé. Donc c'est pour ça que même des personnes, par exemple, qui ont une belle situation, tout d'un coup peuvent mourir dans un accident très jeune. Parce que c'est à ce moment-là une graine karmique négative qui arrive à maturité. Donc on ne sait pas à quel instant ça va s'arrêter, ces bonnes conditions. Donc le Bouddha, il dit, voilà, ne gaspillez pas. Hein, si vous avez ces bonnes conditions, ne les gaspillez pas.
Par rapport donc au karma, je disais donc le karma, souvent on dit qu'il est inconcevable. Donc inconcevable, on a du mal à le concevoir. Pourquoi? On peut prendre l'exemple d'un banyan ou d'un pied de caoutchouc à la Réunion. Tout le monde connaît ce qu'est un pied de caoutchouc. Évidemment, la personne qui a planté la graine du pied de caoutchouc, 100 ans après, quand elle revient voir donc l'arbre, si elle est encore en vie, elle verra donc la différence. Donc on peut pas imaginer qu'une seule petite graine puisse donc faire apparaître un arbre aussi majestueux, aussi volumineux. Donc pour le karma, c'est la même chose. Les graines sont parfois infimes, mais leurs conséquences peuvent être inconcevables.
Et cette notion de réincarnation, justement, par rapport
de renaissance, karma, oui.
Oui, de renaissance. Ouais. Alors comment est-ce qu'il faut l'interpréter? Ça veut dire que si quand on meurt, oui. Donc quand on meurt, on reste avec un passif d'action bonne ou mauvaise, et ensuite quand on revient, donc quand on renaît, donc ce passif soit nous suit du bon côté, soit du mauvais côté. Est-ce qu'il faut l'interpréter comme ça?
Vous avez tout ensemble. Lorsque on dit que souvent la mort, en fait, c'est pas la mort n'existe pas vraiment, c'est juste un changement d'état. On meurt, on quitte son corps, l'esprit lui bien sûr il continue. On dit que souvent c'est comme si vous déménagez d'une maison. On habite dans une maison maintenant, donc on meurt, on déménage. Par contre, quand on meurt, on va partir avec sa valise. Avec sa valise, dans sa valise, il y aura donc tout son bagage karmique, ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait de moins bien, et ce qui est neutre aussi, d'accord, qui est ni blanc ni noir. Donc, vous allez arriver quelque part avec cette valise. Il faudra en assumer les conséquences.
Okay. Par contre, la voiture, la maison, on l'emporte pas.
Ouais, ça c'est le malheureusement pour certains. Donc ça veut dire dans le karma. Donc quand on dit ça c'est ton karma, donc ça c'est erroné, c'est pas.
Oui, c'est erroné. Juste... En fait, il y a pas de notion de fatalité, ouais, dans le karma. D'accord. Quand quelqu'un dit moi l'est comme ça,
c'est mon karma.
Non, c'est mon karma. Eh ben non, ou l'est comme ça, d'accord, aujourd'hui, mais tu peux toujours te transformer. Il y a une possibilité de se transformer et de se changer, d'accord, petit à petit. Il y a pas de fatalité. Tout ce qu'on subit, tout ce qu'on vit, c'est aussi donc la résultante de nos actions, de nos pensées, de nos paroles et de nos actes.
Mais ça on ne sait pas.
Parce le Bouddha a énoncé cela donc depuis ben voilà depuis
tout à l'heure on parlait siècles. De au niveau karmique, il y a quelque chose qui réapparaît alors que la personne est dans le bonheur. Nathalie avait donné qui meurt, donc c'était, elle avait donné un sens, c'était un retour du karma,
une graine
voilà, oui. Donc qu'est-ce que c'est cette graine donc la personne qui est totalement heureuse et qui d'un coup elle meurt. Donc qu'est-ce que c'est que cette notion de graine karmique justement?
Oui, c'est ça, c'est qu'à un moment donné elle a fait un acte négatif dans une vie passée, par exemple.
Donc c'est également dans cette vie passée,
ça peut être dans cette vie, mais si on ne voit pas de raison dans cette vie, hein, si la personne apparemment n'a pas été quelqu'un qui a fait un acte très négatif dans cette vie, on ne comprend pas justement. Hein, ça nous arrive comme ça, on voit une personne mourir ou même un enfant qui meurt, on ne comprend pas, on se dit mais c'est un être innocent, enfin, comment ça se fait qu'il lui arrive telle maladie, un cancer et qu'il meurt. Et justement, le Bouddha donne une explication. Moi, ça m'a permis de comprendre toutes ces souffrances, sinon on n'a pas d'explication. Voilà, l'explication c'est qu'il y a des vies avant et que dans une vie passée, il a peut-être tué un être de manière, il a ôté la vie d'un être, et à son tour, du coup, sa vie lui est ôtée de manière brute. Voilà.
Okay. Et autre chose à rajouter par rapport au karma?
Oui, c'est qu'il y a cette notion de notre responsabilité qui est importante dans le bouddhisme. On est responsable de ce qui nous arrive.
C'est pas la faute d'un tel, c'est pas un tel, c'est nous.
Voilà, donc on arrête de chercher à l'extérieur les causes de nos problèmes.
On est le problème.
On est le problème et la solution.
Ah, il faut rajouter, on est le problème et la solution. Et, oui. et on est le problème et la solution, donc ça montre quand même qu'il y a de l'espoir,
voilà.
Qu'il y a quand même des possibilités qui sont offertes à tous les êtres humains.
Le karma, il se décline, il est assez complexe, il se décline de toutes sortes de manières. Souvent, on dit que donc le karma, donc il va donc si on est né à La Réunion, dans une famille à La Réunion, si donc on est né en métropole ou dans un autre pays, un pays en paix, un pays en guerre, etc. Le fait d'être né dans un endroit, Donc, comment dire, c'est aussi, donc, ça vient aussi du karma, dans telle famille, etc., etc. Donc, le karma, il va donc, si donc on a des tendances dans cette vie, donc, des tendances qui se manifestent, je sais pas, je veux dire, on est colérique, par exemple, comme ça, ou alors on est plutôt joyeux, on est plutôt, donc, toutes les tendances que l'on a actuellement, qui nous arrivent comme ça, apparemment innées, quand on dit, maman, elle est comme ça, quand on dit, maman, elle est comme ça, maman, elle est comme ça, ce sont les empreintes karmiques d'avant. Maintenant, si c'est donc, du positif, les travailler, tant mieux, on va les, comme les amplifier. Par contre, si c'est négatif, on va essayer donc de retourner un petit peu la vapeur et changer ces tendances qu'on a négatives. Donc, l'endroit où l'on est, mais aussi donc, c'est, comment dire, ces tendances donc à vivre, c'est, etc. Est-ce qu'on est riche, on est pauvre, on va faire plein de choses, mais on dit souvent, par exemple, les personnes qui ont beaucoup donc, subtilisé dans notre vie, il est possible que parfois dans notre vie aussi, ils expérimentent la pauvreté, etc. Donc, la notion du karma se décline vraiment à tous les niveaux, en fait.
Donc, il y a aussi cette notion d'une roue, hein. On parle aussi souvent, on voit l'image des bouddhistes, la roue qui tourne. Mm-hmm. D'ailleurs, dit en créole, la roue tourne.
Oui.
Donc, ça veut dire, est-ce que par rapport aux bouddhistes, cette notion de roue qui tourne, ça veut dire que. Parce que souvent, quand on dit la roue tourne, on dit un jour, il appelle demain. En créole, on dit un jour, il appelle demain. Mais est-ce que. C'est une expression négative, parce qu'on dit aujourd'hui, c'est bien, mais demain, il va payer. Est-ce que c'est. Le bouddhiste, c'est ça aussi.
Mais non, mais la roue tourne. Un jour, il appelle demain. Mais il faut que demain. Il faut, ou fait le demain. Pour que demain il change, il faut aussi ou agir pour que demain il change.
Pour pas que le demain il devienne négatif, il faut que la personne participe justement.
Chaque personne a une responsabilité dans sa vie, dans sa propre vie, et dans la vie avec les êtres autour de lui. Il peut pas.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Sinon, on va passer au Vesak. Donc cette fête, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. La fête donc qui va être, on dit la fête qui est à la fois la naissance, la mort et l'éveil. Donc pourquoi est-ce que dans une fête on célèbre ces trois moments forts? Ou est-ce que c'est parce que c'est une fête qui va permettre justement de montrer que.
On célèbre le Bouddha d'une manière générale et on célèbre donc les différents. C'est une fête où on célèbre le Bouddha d'une manière générale et on va célébrer les différents donc, aspects donc, de sa vie, les différents moments de sa vie.
D'accord.
Et donc c'est une fête, donc la fête du Vesak qui regroupe donc tous les bouddhistes, donc c'est une fête du Bouddha.
Est-ce que c'est la fête, une des fêtes les plus importantes du bouddhisme, ou est-ce que
c'est surtout celle qui nous rassemble, parce qu'on a tous les pratiquants bouddhistes ont comme référence première le Bouddha.
D'accord.
Donc c'est en ça qu'on se retrouve tous autour du Bouddha.
Donc c'est une fête. Et qu'est-ce qu'on peut attendre justement le 2 mai?
L'intérêt, c'est d'abord ça nous permet de nous retrouver. Donc, entre bouddhistes, c'est bien, parce que sinon, on est chacun dans son coin.
Dans ses pratiques, son coin.
Donc, au moins, on se rencontre, on échange, et on pratique ensemble, et donc, on voit un peu ce qui se passe chez les autres. Et donc, surtout, c'est donc présenter au grand public le bouddhisme et ses différents aspects. Donc, sur un même lieu, sur une même journée, les gens vont pouvoir s'initier, découvrir les pratiques de chaque centre, rencontrer les pratiquants, poser des questions, écouter quelques bases du bouddhisme aussi. Voilà, c'est l'occasion, une fois par an, de présenter à l'ensemble des réunionnais. Parce que c'est vrai que le bouddhisme n'est quand même pas très développé encore.
Non, pas suffisamment connu.
N'est pas très connu, voilà.
Oui.
Et pourtant, c'est des valeurs universelles. Veut dire, on a une idée du bouddhisme qui est une tradition culturelle. Mm-hmm. Et en fait, bien sûr, il y a une tradition culturelle, puisque chaque pays a donné une empreinte culturelle à la forme,
manière,
je dirais. Mais le fond, c'est vraiment des valeurs complètement universelles.
Okay. Donc là, c'est c'est un samedi, c'est ça?
C'est le samedi 2 mai.
Samedi 2, donc on donne rendez-vous à toutes les personnes qui veulent.
Rendez-vous à la mairie.
Donc c'est gratuit,
c'est
ouvert.
C'est gratuit.
Et c'est situé à quel endroit?
Alors c'est la mairie annexe de la Saline Les Bains.
Oui.
Près de la caserne des pompiers.
Et pour manger, chacun amène ce qu'il veut.
Voilà,
il y a
l'idée,
pas de viande.
C'est effectivement pour respecter une certaine partie des bouddhistes cette éthique bouddhiste qui est de préserver la vie, donc la vie animale. C'est vrai qu'une partie des bouddhistes sont végétariens. Alors il y a des choses à dire sur le végétarien. Oui. Tout le monde n'est pas végétarien en étant bouddhiste, mais c'est vrai que c'est mieux de manger moins d'animaux. Donc ce jour-là en particulier, on fait un partage de repas. Chacun amène un plat et on partage un plat végétarien.
D'accord, et donc c'est ouvert à tout le monde.
À tout le monde.
Alors par rapport et d'autres, est-ce que vous pouvez, si c'est bon pour le Vesak, on peut passer également, parce qu'on va terminer l'émission, sur votre association, Est-ce que vous avez des éléments à rajouter par rapport à ce qu'il y a numéro, bon, on a le site internet, c'est ça?
Oui, voilà. Hein, donc le site Chulang. Internet chulang.org sur laquelle vous avez tous les détails de nos activités et du calendrier aussi. Et c'est vraiment un centre ouvert. On peut aussi téléphoner pour prendre rendez-vous, pour passer un moment, découvrir le centre. Et c'est vraiment ouvert à tous. Et nous, on vous a donné quelques idées pour avoir envie de venir creuser ce dont on vous a parlé, et puis de cheminer, en fait, de commencer le chemin et de voir. Voilà, le Bouddha a dit faites votre propre expérience, ne croyez pas à ce que je dis, hein, ce n'est pas un dogme, le bouddhisme. Okay. Voilà, c'est à chacun d'en faire son chemin, son expérience.
Ok, oui, Jean-Jacques, par rapport à ça, par rapport à cette
juste rajouter par rapport donc au centre, c'est la présence de Rinpoche. Donc on a la chance d'avoir un maître tibétain, donc de tradition authentique. Et donc on dit dans le bouddhisme tibétain notamment, donc la présence donc d'un maître, d'un lama, est donc essentielle. D'ailleurs souvent donc on met le lama avant le Bouddha parce qu'on dit bon, on croit au Bouddha mais on voit pas le Bouddha. Par contre le lama on le voit. Et il représente donc le Bouddha. Donc c'est une grande chance pour la Réunion d'avoir donc un lama et de bénéficier de ses bénédictions. Et donc c'est un trésor, je veux dire. Donc il y a des personnes qui veulent venir le rencontrer, elles peuvent.
Ok, donc ça veut dire que donc faut préciser aux auditeurs que le lama, donc le Rinpoche, c'est ce qu'on dit.
Oui, oui.
Le Rinpoche, donc il est situé à Montvert.
Montvert-Léo. Picard, en montant. Donc,
et donc les personnes qui veulent peuvent venir, c'est ouvert, le centre est ouvert.
Ils peuvent téléphoner donc pour prendre rendez-vous, mais ils peuvent aussi passer de manière comme ça pour prendre un thé ou bien vous le rencontrer, visiter le centre, il n'y a pas de problème.
Ok. Et ensuite, il faut préciser également aux auditeurs donc que si on veut dans votre pratique, donc dans la pratique du centre, c'est beaucoup plus une pratique.
Donc ben, des prières, donc des prières. Mantras, on va dire que d'une manière générale on va pratiquer donc faire des offrandes, des pratiques de purification, donc des pratiques d'offrandes, de purification, donc des prières, donc des mantras, des enseignements avec Rinpoche. Souvent donc on dit que la pratique doit nous aider à changer notre courant de conscience. Moi j'ai souvent nous dit quand vous sortez donc du centre, hein, du temple, est-ce que ça vous aide dans votre vie? En fait, c'est ça.
Oui,
donc,
c'est la
si vous pratiquez, donc c'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Pratiquer, c'est pour se changer, se transformer.
Oui, si on pratique, c'est parce que ça nous aide quelque part.
C'est pour devenir, on dit, un meilleur être humain. Essayer de devenir un meilleur être humain. Voilà. C'est
d'accord. Donc, le centre, lui permet justement d'avoir. Donc, et c'est pas, les pratiques sont très différentes.
Elles sont en tibétain, donc en phonétique tibétaine. Donc, au départ, les personnes parfois peuvent avoir un petit peu de mal. Mais bon, c'est pas important. Il faut donc rentrer dans le courant de pratiquer d'énergie et puis voir ce que ça vous apporte. Est-ce que les enseignements vous apportent quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose en vous? Voilà.
D'accord. Et le nombre de pratiquants par rapport au centre, est-ce que...
On a
une quarantaine d'adhérents, de pratiquants réguliers et puis après il y a des personnes qui passent.
D'accord, qui passent pour pouvoir...
qui découvrent, voilà, une quarantaine d'adhérents.
Ok.
On pourrait dire pour demain matin.
Demain matin.
Pour demain matin, c'est intéressant de préciser ce que vous allez faire demain matin.
De 10h à midi, donc on parle à nouveau de ces préceptes du bouddhisme, des bases, et on répond aux questions des gens.
Ok, merci beaucoup. Donc ce soir, on était avec Jean-Jacques et Nathalie, donc de la Chulang, l'association Chulang. Donc c'est l'association qui accueille, on peut dire comme ça, qui s'occupe de la gestion du centre bouddhiste de Montvert-Léo. Et nous, bien sûr, ce centre, on a la chance d'avoir Rinpoche, donc je pourrais pas dire le nom parce que c'est en tibétain.
Dokyen-se Rinpoche.
Donc on a la chance d'avoir ce Rinpoche. Et cette association vous invite à découvrir ses activités à travers le site. Son site, c'est chulang.fr. Et enfin, vous pouvez pas rajouter, allez-y, il y a encore le temps.
Vous voulez donc remercier Radio Piquant encore une fois et te dire bonsoir à tous les auditeurs de Radio Piquant. Et avant de finir, on va faire donc une dédicace.
Tout à fait.
Ça y est, c'est un petit chant tibétain. Et ça, en fait, donc l'émission d'aujourd'hui, ainsi que les pratiques, les cours, etc., tout ce que l'on fait, donc on le donc dédicace, donc on l'offre à l'ensemble des êtres, en fait.
Ok, on va finir sur votre pratique.
Voilà, merci.
Bonsoir.
Na che bala drupa si pezzo le do wa show.
Au synthèse, les après-midi dansants, c'est au synthèse.